Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Bonjour à tous, Patrick Claes veut évoluer en retrait à la CNCC plutôt que gérer l'entreprise au quotidien, un souhait pas du tout partagé par les cheminots qui ont entamé depuis jeudi un mouvement de grève dans plusieurs villes. Eco d'économie vous propose un dossier sur les enjeux de ce retrait. La RDC exporte 8 fois plus de coltan qu'il y a 5 ans, nous verrons également que les taxes sur cette matière augmentent, c'est la rubrique matières premières à suivre dans ce magazine. Ignace Kassiama, patron de la société Microton, spécialisé dans l'informatique, il vient de lancer l'Université des technologies du Congo. C'est l'entrepreneur de cette semaine. Bienvenue à tous.
Les infos économiques de la semaine.
Les nouvelles économiques nationales. D'abord, ça fait une semaine que le poste frontalier de Bunagana est fermé. Cette décision politique n'est pas sans conséquences économiques. Bunagana est le principal espace d'échange entre l'Ouganda et la province du Nord Kivu. Selon un responsable de l'Office congolais des douanes et excises, l'État congolais perd plus de 100 000 dollars par jour avec la fermeture de ce poste. Les nouvelles concessions minières doivent appartenir en moitié aux Congolais. C'est le souhait du ministère congolais des mines. Vous le savez, la RDC a entamé depuis 2007 la renégociation d'une soixantaine des contrats miniers. Le vice-ministre des mines souhaite que les Congolais soit de plus en plus majoritaire dans le nouveau projet d'exploitation Innocent Olenga.
Kasongo Shomari explique que ce projet du gouvernement qui prévoit que les nationaux détiennent 51% des parts porte seulement sur les nouvelles réserves minières à découvrir. Ce n'est pas tout, il exige également aux entreprises de résider en RDC afin qu'elles s'acquittent correctement des différentes taxes. À en croire les vice-ministres des mines, sur 61 sociétés minières dont les contrats sont révisités, 45 soit 75% ne rencontrent pas les standards internationaux, ne payant notamment pas des redevances à l'État congolais. Victor Kasongo Shomari affirme que la RDC, en voulant élargir sa présence dans l'extraction minière, s'inspire des exemples angolais, nigériens et sud-africains pour faire en sorte que les bénéfices des fabuleuses richesses du sous-sol national exploitées par des compagnies étrangères dans une grande opacité avec des complicités locales soient davantage distribuées aux Congolais. Pour lui, il s'agit d'une opération d'assainissement du secteur minier. Rappelons que la RDC a entamé les processus de révisitation des contrats miniers en juin 2007, suivi jusqu'au 30 septembre prochain par une renégociation avec les compagnies déjà en place.
Restons dans les mines avec Anvil Mining qui espère obtenir le mois prochain un support financier de près de 270 millions de dollars. Ce montant permettra à l'entreprise d'étendre sa mine de Kinsevere au Katanga. Il pourrait aider également à Anvil Mining de passer sa production de cuivre de 47 à 60 000 tonnes par an. Sébastaoum projette la construction d'une voie ferrée qui partirait de Lubumbashi vers l'Afrique australe. Sine Frognon, patron de cette firme brésilienne, a rencontré en milieu de semaine le ministre congolais des Transports. Des études de préfaisabilité sont presque terminées, a-t-il précisé à Media Congo. La construction de ce chemin de fer permettra à la RDC d'évacuer sa production minière et agricole vers le sud de l'Afrique. Et premièrement, reportée, la table ronde économique qui est annoncée pour lundi prochain, elle vise à relancer la croissance et à résoudre les problèmes d'emploi en RDC. Elle rassemblera les experts du gouvernement et les privés. L'économie congolaise, prisonnière de plusieurs contraintes comme le manque d'infrastructures et la multiplicité de taxes, eh ben, tout cela passera au peigne fin. Et comment amener les investisseurs au marché congolais des infrastructures? C'est l'objectif de la sud-africaine SP Intelligent qui tente de réunir le mois prochain à Kinshasa plus de 400 opérateurs économiques et décideurs. Patricia Kazaka est l'un des organisateurs de ce forum.
Nous pouvons être en mesure d'exporter les richesses du Congo à l'étranger, comme pour dire nous avons des minéraux, nous avons de l'électricité, mais des fois il faudrait qu'il y ait des investisseurs pour s'y voir ce qu'il y a comme demande et investir dans ce sens-là. Donc nous voudrions à la fin de la conférence qu'il y ait plus d'infrastructures palpables, de routes, de chemins qui puissent faire circuler nos marchandises à l'intérieur intérieur comme à l'extérieur du pays, et puis avoir des investisseurs qui soient vraiment capables de plus grandes choses dans le domaine des infrastructures minérées ou à Kinshasa.
À Kinshasa, depuis plusieurs mois, Engen a remplacé Shell dans les stations d'essence. L'entreprise sud-africaine a confirmé cette présence cette semaine par un lancement officiel de ses stations avec son logo. Engen avait déjà racheté des actions de Shell. L'État congolais détient 40% des parts dans cette entreprise.
Le dossier de la semaine.
Ce sont des agents SNCC, ils ont manifesté dans plusieurs villes, Mwenedictou, Lubumbashi, Kamina et ailleurs. Les agents SNCC qui entrent aussi en grève pour réclamer la présence de Patrick Kless à la tête de cette entreprise. Hier vendredi, Goma, Bukavu et Mwenedictou ont emboîté le pas à Lubumbashi et à Kindu. Patrick Claes est ADG de la Société Nationale des Chemins des Fers du Congo depuis début mai. Il avait été nommé par le président Joseph Kabila sous proposition de la firme belge Vecturi. Ce groupe belge a signé un contrat de gestion avec le Copirep. C'est donc pour un processus de stabilisation de la SNCC. Le patron de l'ex-Cisarail, lui, Patrick Claes donc, décide de ne plus piloter la SNCC au quotidien. Alors, Jocelyne Moussaou va nous aider à mieux comprendre les enjeux autour de Patrick Claes. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Claes est bien connu dans le ferroviaire congolais.
Et Georges, en plus, il connaît bien le rail congolais. Hein, et il était déjà à la SNCC à la fin du règne de Mobutu.
Dans les années 90.
Oui, c'était avec la société interrégionale zaïroise de rail, Cisarail, était un partenariat entre la SNCZ.
SNCZ, Société Nationale des Chemins de Fer du Zaïre à l'époque.
Oui, et qu'au hasard, Spornet, une sud-africaine avec Cisarail, Patrick Lès, avait fait bonne impression chez nous parce que le trafic ferroviaire s'était amélioré avec comme conséquence l'augmentation des exportations minières et les productions agricoles. Même le train urbain à Lubumbashi avait repris, mais à l'arrivée de l'AFDEL, ses relations avec les autorités n'étaient plus bonnes.
Alors, beaucoup de cheminots ont peut-être gardé cette bonne image. C'est ce qui fait qu'en revenant à la SNCC cette année, 10 ans après, il est bien accueilli.
Sa venue a suscité un espoir d'abord parce que le gouvernement a pris une option de réformer et relever les entreprises publiques. Oui. Ensuite, lui-même, Claes, est venu avec l'expertise de Vecturis, qui est un géant du ferroviaire belge. En plus, les processus de stabilisation entamés à la SNCC bénéficient déjà d'un financement de 30 millions de la Banque mondiale. Et dans ce montant, Claes a promis de payer les retraites de certains agents. Il faut dire que 53% des cheminots sont en âge de retraite. Certains agents estiment que depuis son arrivée, il y a eu un peu d'ordre. Le trafic augmente et les salaires commençaient à être payés régulièrement à ces jours. Ils accusent 30 mois d'arriérés et ils espéraient être payés avec Claes à la tête de l'entreprise. Vu ces petites réalisations, l'annonce du retrait de l'ADG a inquiété les cheminots. Je vous propose d'écouter quelques-uns.
Quand il est arrivé, nous étions remplis d'espoir, d'avenir, de bien-être, de bonne vie. Mais subitement, là, cet espoir vient de s'effondrer.
Donc, le jour que nous avons été insistés, je suis décidé à faire un moukage à 4 kilos. Tu n'as pas besoin de faire un moukage pour moi dans M. Klaas.
Nous avons besoin de M. Klaas parce que c'est le monsieur qui maîtrise bien le chemin de fer au Congo. Parce que depuis son arrivée ici, l'indicateur économique de notre entreprise commençait déjà à monter.
Alors, des inquiétudes du personnel SNCC, mais on connaît les raisons du départ de Claes.
Claes lui-même, dans un communiqué, parle des raisons personnelles, mais le patron du groupe Vecturis, Eric Pfeffer, nous a déclaré qu'il s'agissait des problèmes de santé et qu'il n'y avait aucune implication politique ni une mésentente dans le comité de gestion. Son groupe a même déjà proposé aux autorités congolaises un remplaçant. Seulement, le COPIREP, organe chargé de réformer les entreprises congolaises, s'oppose au départ de Claes.
Et pourquoi ?
Dans une lettre réponse aux souhaits de Patrick Claes, Le COPEREP estime que des concertations approfondies entre Veturis et le gouvernement auraient dû précéder ces retraits pour éviter les remous sociaux.
Mais Jocelyne Moussaou Pondé, le groupe Veturis et la SNCC ont affirmé que Clash continuerait à travailler pour le processus de stabilisation de la SNCC beaucoup plus en retrait.
Oui, mais comme chargé de relations avec les bailleurs, est-ce que les 30 millions que doit donner la Banque mondiale posent problème pour qu'il occupe cette fonction? Écoutez la réponse d'Éric Lesser, patron des Veturis.
Non. De toute façon, on parle des relations avec les institutions financières, ce n'est pas pour sécuriser un contrat existant, parce que là, j'ai vu d'abord que ça dépend plus du gouvernement que de l'institution en question, puisque la mise s'est mise déjà à la disposition du gouvernement. Il s'agit bien de mobiliser les moyens futurs. Et d'ailleurs, le rôle de Patrick, comme le mien, ne se limite pas à des contacts avec les bailleurs. Qui sont des partenaires nécessaires, c'est la relation avec un certain nombre de grands opérateurs économiques. Donc c'est tout l'appui à une équipe de gestion, notamment, et surtout dans le chef de Patrick, en partageant les expériences accumulées.
Et le départ de Clef ne dérangerait pas le processus de stabilisation entamé déjà à la SNCC?
Gouvernement et Veturis s'accordent à dire non. Éric Pfeffer, que nous venons d'écouter, a même déclaré que compte tenu des raisons avancées par Clef, mieux vaudrait son retrait de l'exécutif aujourd'hui que demain en pleine stabilisation. Le retrait d'un homme n'est pas l'enjeu principal de la SNCC. Eux ne devraient pas bloquer l'entreprise, estime la ministre du portefeuille, Janine Mabunda, qui soutient que le processus de stabilisation de la SNCC doit continuer.
Veturis amène un certain nombre d'experts expatriés, africains ou non, et chacun a un rôle à jouer. Alors, en fonction des difficultés, des obstacles, des réalités, des avantages, des progrès que nous voyons sur terrain, au fur et à mesure de la mission, nous réalignons les équipes. Et donc, il se fait qu'aujourd'hui, pour la SNCC par exemple, l'enjeu est bien sûr à Lubumbashi. Il est bien sûr à Kindu, à Mwene-Ditu, en réhabilitant le rail, en acquérant de nouvelles locomotives, en investissant dans de nouveaux équipements, mais il est aussi en dehors de Lubumbashi, sinon même en dehors du Congo, parce que pour que le Congo puisse être performant au niveau du rail, eh bien, il faut améliorer la question des corridors, notamment le corridor Est qui mène le Congo, ou en tout cas la province sucrifère du Katanga, qui mène ses exportations vers Dar es Salaam, la Tanzanie. Il faut améliorer probablement le corridor Sud qui amène les exportations de cuivre du Katanga vers la zone SADC, et tout ça, ça nécessite beaucoup de mobilité, et cette mobilité-là, c'est l'option en tout cas que Veturis a prise, qui est de déployer non seulement à l'intérieur du Congo, mais aussi dans les points de partenariat stratégique de la SNCC, des experts qualifiés qui nous permettent de moderniser et de réussir sur ce redressement de la SNCC.
Alors, avant de vous lâcher, dites-nous, Jocelyne, à quand la fin du processus de stabilisation de la SNCC?
C'est un processus, Georges, de 24 mois, donc 2 ans. Les 2 premiers mois étaient consacrés au diagnostic, c'est-à-dire voir qu'est-ce qui ne va pas à la SNCC et comment la restructurer. Le rapport de ces contrats est en rédaction et pourrait être prêt dans 10 jours. Il y aura donc des recommandations envers le gouvernement, et c'est après cette étape que les processus de stabilisation proprement dit pourraient commencer.
Merci Jocelyne. Nous vous retrouvons dans 5 minutes pour notre rubrique matière première.
Merci Georges.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
Il faut de l'aide pour sortir de la dépendance de l'aide. C'est ce que le président du Ghana, John Kufuor, a demandé aux pays développés et aux pays en voie de développement. Nous avons une opportunité aujourd'hui d'atteindre un consensus autour d'un engagement commun pour éliminer la pauvreté et bâtir un avenir où aucun pays ne dépendra plus de l'aide, a-t-il dit lors de l'ouverture de la session ministérielle du 3e forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide qui se tenait à Accra en fin de semaine. Un petit regard sur le marché de matières premières. Le cuivre termine la semaine à 7 221 $ la tonne, une diminution de 4% par rapport au week-end dernier. Le cobalt stagne à $25 le livre, c'est une mauvaise cote depuis le début de cette année. Le temps, lui, se vend à 19 700 $ la tonne, alors qu'il valait début semaine 18 800 $. Le marché du pétrole est, lui, surapprovisionné et que certains experts, conséquence, le baril de pétrole poursuit sa chute. Il reste donc au-dessus de $110 sur les marchés internationaux, à la base de l'intention des États-Unis de puiser dans leurs réserves pour faire face aux approvisionnements.
Reportage de la semaine.
Le reportage de cette semaine nous amène en Bandaka. Les magasins des Indo-Pakistanais ont rouvert leurs portes il y a 48 heures. Ces établissements appartiennent à 8 sociétés détenues par ces ressortissants asiatiques. La direction provinciale des impôts, qui entend ainsi procéder au recouvrement forcé de l'impôt sur les bénéfices réalisés par ces commerçants en 2007, a dû sceller quelques-uns de leurs magasins pendant une semaine. Les propriétaires ont trouvé l'action malhonnête et l'affaire s'est tout de suite transformée en un bras de fer Dominique Colombi.
Les services des impôts les accusent de n'avoir pas payé l'impôt sur les bénéfices réalisés en 2007. Mais les commerçants indiens, preuve des paiements à l'appui, affirment avoir déjà payé cet impôt depuis longtemps. Ces preuves de paiement portent du reste la signature de l'ancien directeur provincial des impôts rappelé à Kinshasa. Mais elles sont rejetées par l'actuel directeur provincial en poste depuis 2 mois. Témoignage de M. Imedi, gérant des établissements Irako.
D'abord, on a payé première tranche, 252 000 $. Deuxième tranche, on a payé 814 000, on a sauvé les comptes. L'autre directeur, il est parti. L'actuel directeur est arrivé, c'est pas, il était mal renseigné. Au lieu de vérifier, il a passé directement par changer d'office. On n'a jamais fait ça nulle part, pour le même exercice.
À en croire les gérants des établissements Irako frappés par cette mesure, les chiffres d'affaires présentés par leur société ont déjà été vérifiés par les agents du service des impôts et ils ont dû payer en fonction des réajustements faits en conséquence. Cette situation, dit-il, est créée de toutes pièces par la direction provinciale des impôts Équateur.
C'est manque de compréhension seulement. Comme on a vu, le chien était parti, le nouveau est arrivé, il a dit, il a fait le chien. Voilà où ça se pose maintenant, ça ne va pas entre les opérateurs économiques et celui d'impôts.
Le directeur provincial de la FEC, Fédération des entreprises congolaises, qui plaide pour ses affiliés, soutient la même version. On écoute Adelar Koundou.
Les opérateurs économiques ont respecté tout ce que le service des impôts les a demandé de verser comme impôt dit à l'État. S'il conteste, il n'a qu'à demander à ce service comment est-ce qu'ils sont parvenus à fixer ces montants. Les opérateurs économiques n'ont rien à voir car ils ont respecté les droits de l'État.
En vain, la FEC a tenté de concilier les deux parties. Face à cette cacophonie, elle a saisi l'autorité provinciale, mais les démarches de la FEC ne semblent pas encore aboutir. Adela Koundou, directeur provincial.
Nous sommes allés voir l'autorité, c'est-à-dire le vice-gouverneur. Après plusieurs contacts, le directeur des impôts nous invitera dans son bureau, ensemble avec le directeur de l'ANER. Il nous a demandé qu'on puisse ouvrir les magasins pour quelques jours, de sorte qu'ils se concertent dans ce service et l'impôt dit à l'État, les opérateurs économiques seront toujours obligés de verser.
Les commerçants indiens, dont certains opèrent en Bandaka bien avant l'indépendance du pays, sont spécialisés dans la vente de certains articles. La fermeture de leur magasin pendant une semaine a été ressentie par des clients. Témoignage d'un client.
Na biso population pona kosala nango musala ndakisa ba biloko ya construction to za ciment ba materiaux ya mike ba tuyeri oyo ewutaka pa na bango pona kobongisa nango ndako ba pièce mosusu ya biloko mike oyo ezo concerne menuiserie et peut-être vraiment ma difficulté makasi.
Les magasins scellés sont rouverts, mais la direction provinciale des impôts reste transigeante. Les commerçants indiens doivent se soumettre à la nouvelle facturation de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Le directeur provincial des impôts contacté n'a pas voulu réagir sur ce dossier. Il estime, selon ses propres termes, que pour des raisons déontologiques, il ne peut pas faire des déclarations. Entre-temps, le parquet général de Mandaka s'est saisi du dossier pour tirer au clair cette affaire.
matières premières.
Des nouvelles statistiques sur les exportations d'or, de diamants et de cassiterite. C'est le Centre d'expertise pour la certification des matières précieuses qui vient de les publier. Des chiffres assez encourageants pour l'économie congolaise qui semble maîtriser ces statistiques. C'est le cas de la production des cassiterites dont les valeurs ont quadruplé en 5 ans et le coltan n'est pas du reste. Jocelyne Moussaou-Pondé.
De 47 à presque 400 kilos par an, les exportations de coltan ont été multipliées par 8 en 5 ans. À la fin de cette année 2008, elles pourront aller au-delà de 400 tonnes. Déjà pour les 7 premiers mois de cette année, la production est évaluée à près de 300 tonnes. En valeur, cela a rapporté plus de 5 millions de dollars. De ce montant, l'État congolais n'a gagné qu'une infime partie de 0,6%. Très faible, mais fruit d'un début de maîtrise des exportations, parce qu'il y a 5 ans, aucune taxe sur les coltans n'était perçue. Les ONG ont toujours dénoncé l'exploitation illégale de ces ressources par les groupes armés et les troupes régulières congolaises. Selon le ministère des Mines, ces données satisfaisantes sur les matières premières montrent que l'État congolais prend de plus en plus contrôle de ces richesses. Les exportations des coltans de pays voisins de la RDC sont par contre en diminution.
Vos avis et suggestions nous intéressent. Écrivez-nous à echo@radiocapi.net.
Alors pour terminer ces échos d'économie, ce sera la rubrique entrepreneur. Aujourd'hui, Ignace Kassiama, c'est le patron de la société Microtonde, spécialisée dans l'informatique en France, au Canada, aux USA et en Afrique du Sud. Docteur Ignace Kassiama vient de lancer cette semaine à Kinshasa l'Université des technologies du Congo qui ouvrira ses portes effectivement en octobre prochain à Kinshasa et à Kikwit. L'UTC présente des options innovatrices, comme on peut le dire, génie de procédés, génie biotechnique. Alors, docteur Ignace Kassiama, est-ce que l'UTC a des moyens qu'il faut pour une université qui veut développer le pays?
La grande particularité de l'Université de technologie du Congo, c'est aussi le partenariat que nous avons à l'étranger. Un partenariat des universités, mais aussi un partenariat des entreprises qui ont trouvé à l'Université de technologie du Congo un projet sur lequel ils peuvent bénéficier.
Quelles sont les entreprises partenaires qui sont avec vous dans cette action?
Je cite Microsoft, où j'ai moi-même travaillé, où mon patron direct a été le fondateur de Microsoft Bill Gates. C'est bien mon chief architecte. En fait, c'est lui qui m'a donné la vision de dire que tout est possible dans la vie. Et que la vie est simple, et que la technologie doit nécessairement être aussi simple. Vous parlez IBM, vous parlez toutes les grandes entreprises encore technologiques comme Pfizer, dans la biotechnologie, les produits, les entreprises qui fabriquent des produits médicaux, des équipements médicaux, éventuellement. Et vous parlez des universités, l'université MIT, Harvard, l'université Polytechnique de Montréal. Donc nous avons vraiment un partenariat des entreprises qui trouvent qu'ils vont bénéficier du produit fini de l'Université technologique du Congo, qui est l'étudiant formé, qui est prêt directement à pouvoir changer la vie de l'entreprise.
Alors cette université, l'Université de technologie du Congo, vient répondre à quel besoin?
Ça répond aux besoins qui existent déjà. Nous ne sommes pas en train de projeter un besoin. Les besoins sont là, ils existent, ils sont là tous les jours. Nous disons qu'une technologie doit changer l'économie d'un peuple. Une technologie doit faire développer le peuple. Ce n'est pas une technologie en particulier. Nous disons la technologie. Puisque nous définissons la technologie comme étant le nom que prend la science quand elle a pour objet les produits de la vie active. Donc la vie de tous les jours doit changer. Et c'est ça. C'est le but et c'est la vision de l'Université de technologie du Congo par la créativité, l'innovation, la concrétisation de produits qui changent la vie de l'individu dans son commun des mortels de tous les jours.
Vous avez d'autres branches telles que, par exemple, le génie de procédés. C'est quoi? Est-ce que les données actuelles de la RDC montrent qu'on n'aura plus besoin de la métallurgie, par exemple, et qu'il faut évoluer sous d'autres angles?
Écoutez, les noms sont différents. On dit génie de procédés parce que c'est vraiment le mot qu'il faut pour simple de pouvoir atteindre le but que nous sommes en train de chercher. Métallurgie, géologie et tout ce que vous pouvez appeler, ce sont des options, ce sont des branches. Mais la différence ici, nous disons que cette option-là doit être concrétisé en pouvant créer des produits de la vie active. Quand je dis gérer des procédés, la vie est une transformation de tous les jours. Nous avons de l'huile, nous avons la terre, nous avons des produits qui existent déjà. Et nous voulons transformer ces produits. Nous devons concevoir des procédés qui créent des produits qui change la vie de l'individu. Et ces besoins-là existent. Et nous pensons qu'en utilisant cette technologie, dans chaque domaine, génie des procédés, génie des systèmes urbains, génie biotechnologique, comme nous l'avons appelé, ça, c'est vraiment des options qui, au fait, doivent avoir comme résultat une technologie qui utilise cette science-là pour créer un produit et qui va vers la vie de la personne. Et aussi, nous devons ramener le travail ici chez nous au pays. Beaucoup d'entreprises américaines, canadiennes, européennes, aujourd'hui, ils prennent le travail et l'envoient ailleurs. Pour la simple raison que c'est pour essayer de profiter un peu de cette main-d'œuvre.
Facile
et moins cher. Exactement. Pourquoi pas les Congo? Nous allons aussi convaincre nos clients aux États-Unis, voilà, au Canada et en Europe de pouvoir bénéficier de la main-d'œuvre au Congo en faisant le travail ici au Congo.
Alors, je vais poser une question simple avant de terminer. Quelles sont les capacités ou les valeurs personnelles au docteur Ignace Tassiama qu'il veut bien introduire dans cette université?
Oui, écoutez, les valeurs ou les capacités personnelles, c'était d'abord le désir et la croyance en soi-même, dans sa foi, qu'on peut tout faire. Parce que moi-même, j'ai étudié au pays, j'ai étudié parce qu'il fallait étudier et il fallait être meilleur. Et j'ai fait preuve à l'étranger, dans de grandes entreprises. Je suis entrepreneur avec l'entreprise qui compte beaucoup de gens. Et j'ai pensé qu'il fallait que cette science et cette éducation que moi j'ai reçue soit aussi partagée au nôtre.
Docteur Ignace Tassiama, je rappelle que vous êtes recteur de l'Université de Technologie du Congo. Merci d'être venu jusqu'à Radio Kapi.
De plaisir.
Merci beaucoup à Jocelyne Moussaou qui l'a réalisé. Merci également à toutes nos rédactions provinciales. Éco d'économie, vous le savez, Georges Kamoudjova était à la présentation. À la prochaine.